Pourquoi tu me regardes comme ça?
Des fois, cette émission me touche. J'aime bien le vivre à côté de toi, Mimi.
Et c'est sur l'autre radio. Cette semaine, on l'a commencé ensemble, on la termine de la même manière. Quoique non, les choses ne se passent jamais totalement de la même manière. C'est d'ailleurs plutôt nouveau puisque c'est le premier vendredi de la saison. L'année dernière, c'était le grand entretien qui devient le grand format. Et aujourd'hui, vendredi 20 septembre, c'est un portrait que l'on découvre ensemble. Et alors ce grand format sonore, ce portrait sonore, c'est celui de Geneviève Dubosc qui, dans la nuit du 4 au 5 juin 1945, celle du débarquement, avait 11 ans. Elle habitait à Sainte-Mère-Église, en Basse-Normandie. Ce n'est que bien plus tard qu'elle viendra s'installer en Mayenne. Cette nuit-là, elle décide de la raconter en 1978 dans un ouvrage qui porte le titre de « Bye bye Geneviève », publié aux éditions Robert Laffont. Un livre traduit et publié aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Belgique, en Suisse et aux Pays-Bas, et vendu à plus de 150 000 exemplaires. Depuis introuvable, c'est Stéphania, sa fille, qui le fait rééditer en avril 2024 aux éditions Salvator et qui aujourd'hui nous raconte l'histoire de sa mère Geneviève Dubosc. Alors Stéphania, les premières pages racontent le jour de la déclaration de la guerre, alors que Geneviève a 6 ans et 5 mois. Et dès le début, on sait que cette histoire va nous être racontée avec ses yeux d'enfant. Et on met les pieds au sein de cette famille.
C'est la déclaration de la guerre et elle s'en souvenait. Et donc, quand la guerre a été déclarée, évidemment, eux, ils étaient déjà pas très riches, mais ça leur a compliqué encore plus leur quotidien parce que tout était compliqué à trouver, l'alimentation, les vêtements. Comme eux, ils faisaient vraiment partie des plus pauvres de Sainte-Mère-Église. Pour eux, c'était encore plus dur. Ma grand-mère, elle s'occupait d'un troupeau de vaches, elle avait droit au lait d'une des vaches. Donc au moins, ils avaient du lait tous les jours. Et puis, ils avaient dans une autre parcelle, un peu plus loin, à 2-3 kilomètres, ils avaient quelques légumes. Mais c'était bien compliqué quand même. La vie était très, très difficile. Il faut savoir que ma maman, pour aller à l'école, par exemple, elle faisait 6 kilomètres à pied le matin et 6 kilomètres le soir. À partir de l'âge de 7 ans, du CP, quoi. Et le matin, elle avait 1,8 km à faire sur la ligne de chemin de fer, parce qu'il n'y avait pas de route, puisque leur maison, il n'y avait pas de route pour y aller, donc il n'y avait pas de route pour aller à l'école. Et arrivée au passage à niveau précédent, donc au 103, là, il y avait une route, et là, elle prenait la route pour aller à Sainte-Mère-Église. Et elle faisait ça tous les jours, été comme hiver, du haut de ses 6 ans. Je pense qu'elle est rentrée à l'école à 6 ans, donc, enfin, ou 6 ans et demi. Donc oui, c'était... Ça vous faisait mûrir très vite.
Et alors, quand Geneviève voit sa mère s'effondrer en entendant sonner le tocsin pour annoncer le début de la guerre, elle demande à sa mère « qu'est-ce que ça change ?» Et là, Germaine lui dit, donc sa mère, « tu auras bien le temps de t'en rendre compte, on va devenir de plus en plus pauvres, de plus en plus malheureux. » Des yeux d'enfants et des explications d'adultes qui, eux, savent parce qu'ils ont déjà connu la guerre.
C'est son regard d'enfant, mais dans un monde où on n'a pas tellement le luxe de se payer une enfance. Donc il faut très vite apprendre à survivre. Et oui, c'est ça. C'est être obligé. Malgré tout, il reste une part d'enfance parce qu'elle n'est quand même pas bien vieille. Mais c'est tellement difficile de vivre qu'il faut continuer et qu'il faut avancer vite parce que c'est une question de survie.
Cette part d'enfance, ce joli regard sur le monde, il existe malgré tout quand même, notamment avec le moment où elle nous parle de Monsieur Canard, alors qu'il devient plutôt compliqué de se nourrir. Elle va braconner, elle sort régulièrement seule en nature et elle rencontre ce canard qu'elle veut laisser vivre. C'est un très beau passage où contre elle, ce canard devient important et elle le raconte vraiment très joliment.
Après, c'est une petite fille solitaire. Alors, elle a deux grands frères et sœurs qui sont déjà partis de la maison, qui travaillent. Et elle a un tout petit frère qui est tout petit au moment de la déclaration de guerre, qu'elle adore. Mais elle est solitaire et surtout, elle est martyrisée par mon grand-père. Parce que mon grand-père est violent et il ne voulait pas Enfin, quand elle est née, il voulait un garçon parce qu'il avait perdu un petit garçon la naissance d'avant. Et donc, il voulait un autre petit garçon pour remplacer celui qui était décédé tout bébé, ou même peut-être mort-né, je ne me souviens plus. Et donc, du coup, et Geneviève, il ne l'a jamais aimé et il l'a martyrisée. Aussi petite qu'elle a été, il a commencé à la battre. Et donc, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour survivre aussi dans un milieu hostile quand vous êtes petit, bah, il faut se protéger. Donc, elle adorait le marais. Elle y passait beaucoup d'heures. Elle adorait les animaux. Je suis allée l'autre jour en souvenir de Monsieur Canard. Je suis allée jusqu'à Sainte-Mère-Église sur Saint-Ombe et je lui ai déposé un petit canard en céramique qu'on avait à la maison. Je lui ai mis le petit canard, un petit col vert sur Saint-Ombe. Elle adorait les canards.
Vous nous avez évoqué son père qui était très violent, ce père appelé dans le roman Papa Maurice, qui lui voulait un fils et qui le fera subir à Geneviève, qui elle bah, évidemment n'y est pour rien. Et donc à la lecture de ce livre, je me dis que c'est aussi une histoire de femme, avec sa mère Germaine qui porte quand même la famille à bout de bras, mais aussi grâce à Madame Mantet qui constate un jour des marques sur le corps de Geneviève, qui en parlera certainement à Mademoiselle Burnouf, l'institutrice de votre mère, qui à partir de ce moment-là va vraiment prendre soin d'elle, mais autrement.
Mon institutrice, voilà. À qui elle a voué un amour incroyable jusqu'à la fin de sa vie. Quand rongée par la maladie d'Alzheimer, maman n'avait plus de mémoire du tout. Elle ne se souvenait à peine de ses enfants. Mais la dernière personne dont elle a parlé, c'est Mademoiselle Burnouf, qui lui avait fait comprendre que d'apprendre, c'était fantastique. Nous, quand on était petits, maman nous disait toujours « Une journée où vous avez appris quelque chose, ce n'est pas une journée de perdu. » Elle lui avait fait voir qu'il existait autre chose, qu'on pouvait s'évader avec les livres, qu'on pouvait apprendre l'histoire de France et du monde, et la géographie, enfin, et que tout était un vrai bonheur, quoi. On essaye de prendre soin d'elle, au moins le temps qu'elle est à l'école, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Et puis ma grand-mère faisait ce qu'elle pouvait, mais elle faisait pas le poids. Mon grand-père, il était grand, costaud, fort, et ma grand-mère, c'était une toute petite bonne femme, elle faisait 1m50, 45 kilos... À sa manière, elle essayait de protéger sa fille, mais c'est difficile. Et puis à cette époque-là, évidemment, ce n'était pas la même situation que maintenant et on ne protégeait pas les enfants comme maintenant.
Et alors très vite, on arrive dans la nuit du 4 au 5 juin 1945, la nuit du débarquement. Et votre mère, à ce moment-là, a 11 ans.
Oui, c'est ça. Elle avait 11 ans et demi, en fait, parce qu'elle avait eu 11 ans au mois d'avril. Alors, mes grands-parents, donc les parents de ma maman, étaient gardes de barrière sur la ligne Paris-Cherbourg, à 4 km de Sainte-Mère-Église, dans un lieu-dit qui s'appelle La Fière. Et en fait, il n'y avait pas de route qui séparait cette ligne de chemin de fer, mais simplement deux marais, ce qu'on appelle là-bas le grand et le petit marais. L'été, il y avait des bêtes qui pâturaient, comme encore maintenant d'ailleurs, et mon grand-père était chargé de faire passer les bêtes d'un côté et de l'autre du marais. Sauf qu'en 1943, si je ne dis pas de bêtises, les Allemands ont fait fermer les écluses au niveau de 40 ans pour faire monter le niveau d'eau qui montait naturellement l'hiver, mais pas l'été. Et ils ont fait monter le niveau d'eau pour inonder les marais, de façon à empêcher un futur éventuel débarquement, parce qu'ils avaient déjà peur de ça dans les années 43. Et du coup, mon grand-père et ma grand-mère sont restés dans leur maison, mais il n'y avait plus de bêtes à transvaser, puisque c'était inondé. Et dans la nuit du 5 ou 6 juin, un gars, tout barbouillé de noir, qui est arrivé avec un pistolet mitrailleur, qui a ouvert la porte de leur maison d'un grand coup de pied, et qui les a mis en joue, et qui leur a demandé, dans un très bon français, si c'était des amis ou des ennemis. Et là, ma maman, qui avait 11 ans, et son petit frère, ont répondu avec leur innocence d'enfant, qu'ils étaient chez des amis, des vrais amis. Et du coup, le soldat américain, qui était un éclaireur, a étalé une carte sur la table de la cuisine, une carte d'état-major, en demandant à mon grand-père de lui montrer où étaient les positions allemandes. Et mon grand-père, du coup, a compris que le gars n'était pas là tout seul. Et il lui a dit, vous avez d'autres gars avec vous? Il lui a dit, oui, venez voir. Il l'a emmené dehors. Et là, dans le ciel de Normandie, au-dessus de ce petit passage à niveau, des centaines et des centaines de parachutes qui descendaient. Et là, mon grand-père a tout de suite compris que les gars, ils étaient en danger. Sauf que l'éclaireur, il avait eu la chance de tomber sur la ligne. Et comme c'était une nuit très noire, il n'avait pas vu que c'était inondé 2 mètres plus bas. Et là, mon grand-père lui a fait voir et il lui a dit « Vos gars, ils risquent de se noyer. » Alors, mon grand-père, il était analphabète, il ne savait ni lire ni écrire. Et il parlait beaucoup le patois, un peu le français, mais plus le patois que le français. Il a juste demandé à ce gars-là « Comment on dit « Venez ici, les gars » dans votre langue ?» Et le gars lui a répondu « On dit « Come here, boy ». Et il est parti avec son bateau à fond plat, sa perche, et il a commencé à sillonner le marais en appelant « Come here boy, come here boy ». Et à chaque fois qu'il pouvait charger un gars dans sa barque, il le faisait. Quand il en avait chargé une dizaine, il les ramenait, et ainsi de suite. Et il est allé en priorité chercher ceux qui étaient tombés au-dessus de la rivière qui traverse le marais, qui s'appelle le Merdret. Parce que là, il y avait des courants et qu'elle était beaucoup plus profonde que le marais. Les gars qui tombaient dans 1,50 m d'eau, ça c'était le petit marais, ils pouvaient s'en sortir tout seuls, mouillés mais s'en sortir. 1,80 m déjà, c'était juste. Mais alors ceux qui tombaient dans la rivière, ils n'avaient aucune chance de s'en sortir parce qu'ils auraient été entraînés par les courants. Donc mon grand-père est allé chercher d'abord ces gars-là en priorité. Il l'a fait toute la nuit. Pendant que ma maman, avec sa mère, ont mis le feu dans les deux cheminées de la petite maisonnette. Ils ont entassé un fagot dans le conduit de la cheminée. Le feu a allumé le fagot et le fagot a allumé la suie. Et du coup, ça a grimpé tout le long de la cheminée. Et ça a fait des torches qui a permis aussi aux gars de se repérer ceux qui pouvaient venir à pied. Et dans la nuit, il y a environ 300-350 gars qui se sont regroupés dans cette petite maison. Évidemment, ils n'ont pas tenu tous dans la maison, mais ils étaient sur les voies. Ma grand-mère leur a donné tout ce qu'elle pouvait. Alors, au début, elle avait une soupe de poule qui chauffait dans la marmite, dans la cheminée. Elle a rallongé avec de l'eau. Puis, quand elle n'a plus rien, elle a mis du lait. Et ils se sont regroupés et vers 3 heures du matin, donc à peu près 3 heures et demie après le lancement des opérations. Ils sont partis pour aller combattre dans les environs les positions allemandes.
C'est à la fin de la guerre que le pire arrive finalement pour la famille. Puisqu'à 12 ans, elle saute sur une mine avec son petit frère qui décède sur le coup. Ouais. Et alors pour votre mère, c'est ensuite 5 années d'hospitalisation qui ont été nécessaires.
C'est ça, oui, pour la reconstruire. Quand on était petit, elle nous racontait souvent ces années d'hospitalisation qui, malgré tout, n'avaient pas été des années horribles pour elle parce que ça l'avait fait sortir de son milieu et que du coup, elle y était plus heureuse. C'est horrible à dire, mais elle y était plus heureuse que chez elle. Et elle me racontait souvent comment on lui avait fait ses greffes de visage. Et je ne comprenais pas parce que, en fait, elle m'avait expliqué qu'il coupait un morceau de l'avant-bras, il coupait un morceau de la cuisse, il faisait que la cuisse devenait nourricière de l'avant-bras, après il découpait, puis après il remettait sur le visage, en faisant la même chose. Parce que c'est très très long le processus, puisqu'il faut, c'est des autogreffes en fait, il faut que pour amener le morceau nourricier à la joue, il faut de la chair, il faut de la peau, et après ça greffait. Elle a subi 40 interventions chirurgicales entre ses 12 et ses 17 ans. Après elle en a eu d'autres, mais 40 interventions chirurgicales. Il faut dire qu'elle avait plus de tibia dans une jambe, le dessus de la rotule. Dans l'autre jambe, avait été sectionnée par la mine. Elle avait encore 200 morceaux de métal dans le corps. Elle est partie avec ces morceaux de métal. Ses jambes, par exemple, elles étaient criblées d'éclats et il ne les avait pas, sur le plan esthétique, on voyait les morceaux de métal. Mais dans l'ensemble, elle était bien réparée. C'est pour ça d'ailleurs que quand à 17 ans, on lui a dit « maintenant tu vas rentrer chez tes parents », elle s'est dit « non ». Ah, sûrement pas. Je ne vais pas retourner chez papa Maurice. Pendant 5 ans, elle avait été à l'abri des coups. Elle s'est dit sûrement pas. Et comme elle avait plein de correspondants, parce que c'était long, les journées d'hôpital, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Internet. Parmi ses correspondants, elle avait raconté qu'elle ne voulait pas retourner chez ses parents, mais elle n'était pas majeure. La majorité, c'était 21 ans. Et il y a un monsieur qui lui a proposé de l'épouser. Elle ne l'avait jamais vu. Elle a dit d'accord. Et c'était mon père. Alors après, elle a souvent dit, c'était pas mieux, c'était pas pire qu'avec son père, c'était différent. Parce que je pense que il n'était pas trop fait pour le mariage et surtout pas fait pour avoir des enfants et s'en occuper. Donc il était marin, donc entre deux voyages, il avait 6 enfants, dont le premier qu'elle avait appelé Claude, comme son petit frère chéri, qui lui aussi est décédé, mais tout bébé. Après, elle a eu mes 3 frères. Dominique, Laurent, Eric, tout ça en 3 ans, mois après, et dans la nuit de Noël 59, elle a eu un autre petit garçon, le dernier petit garçon de la fratrie, qu'elle a baptisé Noël, puisqu'il était né le 24 décembre, ça s'imposait. Et les médecins lui ont dit qu'il était atteint de la même malformation que l'aîné et qu'il allait mourir de faim, puisqu'en fait, cette malformation faisait qu'il ne pouvait pas garder d'aliments. Alors, maintenant, ça se soignerait sûrement. À cette époque-là, on n'avait pas ni les techniques ni les moyens. Et donc, à 2 mois, le petit bébé qui faisait 4 kilos à la naissance, il ne pesait plus que 1,9 kg. Et les médecins lui ont dit qu'il allait mourir. Et c'est là qu'elle a fait une promesse insensée, avec sa foi particulière. Elle a promis à Dieu que si elle arrivait à élever son petit garçon, elle irait à Jérusalem à pied pour le remercier. Sans même savoir si c'était possible d'aller à Jérusalem à pied, parce qu'elle n'était jamais sortie de la Normandie. À cette époque-là, on habitait à côté du Havre. Et le petit bébé a ouvert les yeux. Et du coup, là, mon père qui était avec elle lui a dit « Répète ce que tu viens de dire. » Et là, elle l'a répété de manière très consciente et très... Voilà, en sachant bien ce qu'elle promettait. Et le petit garçon a... Le petit bébé a à nouveau ouvert les yeux.
Donc toute la nuit, il tente de faire vivre l'enfant, le nourrissant avec d'infinies petites quantités de lait. Toutes les 10 minutes, l'enfant survit la première nuit et donc les nuits suivantes également. Votre mère fera ensuite ce voyage à pied. Votre père, lui, bon, quitte le foyer conjugal. Et alors votre mère élève ses 5 enfants toute seule. Et donc son histoire qu'elle nous raconte dans son ouvrage « Bye bye Geneviève », vous n'en saviez pas grand-chose avant vos 20 ans. Et donc si on peut la lire aujourd'hui, c'est parce que vous lui avez demandé finalement de l'écrire au moment où sa maison d'enfance doit être démolie.
Ouais, j'avoue que c'est de ma faute. En fait, maman, elle écrivait depuis toujours. Elle n'arrêtait pas de nous écrire des histoires. Plein d'histoires, des contes, mais comme ça. Hein. Elle écrivait sur un cahier d'écolier, elle adorait ça. J'ai dit à maman... ils vont abattre ta maison d'enfance, c'est quand même bête. Je dis, tu devrais écrire son histoire. Parce que nous, on savait, elle nous en avait raconté, mais pas plus que ça. On savait qu'il y avait eu des trucs pendant la guerre, que mon grand-père avait sorti des parachutistes de la flotte et tout. Mais j'ai dit, moi j'avais 20 ans à l'époque, enfin même pas 19. Je lui ai dit, ce serait quand même bien que tu écrives ça, parce que si un jour j'ai des enfants, moi je veux qu'ils puissent lire aussi l'histoire de ta maison. Donc elle a écrit. Alors elle a fait des recherches et en parlant avec une dame dans une librairie à Sainte-Mère-Église où elle lui disait je vais écrire l'histoire de ma maison d'enfance et tout, il y avait un monsieur qui était là qui est venu la voir et qui lui a dit excusez-moi madame, je vous entends parler avec madame Jeanne, vous ne seriez pas la fille de papa Maurice? Et maman a dit bah si. Il dit parce que ça fait 30 ans que les Américains vous recherchent. Et maman a dit ils nous recherchent pourquoi? Mais pour vous dire merci pour cette fameuse nuit. En fait, ils n'avaient pas le nom. C'était Papa Maurice et Germaine. Ils n'avaient pas le lieu, parce qu'ils savaient que c'était un passage à niveau, mais ils ne savaient pas que c'était le 104. Et surtout, il n'y avait pas de route. Donc, chercher un passage à niveau en plein milieu des champs, ça paraît curieux. Et ces gars-là qui avaient 18, 20 ans, c'était comme des grands frères. Et donc, quand elle a conçu à ce moment-là un amour, mais incommensurable pour ces petits gars... qui sont allés se faire trouer la peau, il ne faut quand même pas l'oublier, ce n'était pas une partie de plaisir, ils ne sont pas allés en colonie de vacances, les gars. Et il suffit, pour s'en rendre compte, d'aller voir le cimetière américain de Colville, où il y a 9986 tombes alignées, et quand vous regardez les dates de naissance et de mort des gars, ils ont entre 18 et 25 ans, et vous vous dites, ah ouais, quand même, ce n'était pas obligé de venir se faire trouer la peau pour la France.
Donc cette histoire, elle l'écrit, elle l'envoie à un seul éditeur en 1977, Robert Laffont, qui très vite la recontacte pour publier son texte.
Du jour au lendemain, elle est devenue célèbre, elle est passée apostrophe avec Bernard Pivot, ça je m'en rappelle très bien, moi j'ai regardé à la télé. Je ne vous dis pas comment j'étais émue et fière de ma maman, qui avait à sa gauche ou à sa droite, je ne sais pas, mais elle était entourée en tout cas d'Henri Troya, de l'Académie française, et de Jean Tullard, de l'Académie française aussi. Et elle, qui n'avait que son certificat d'études. Et ben ma maman, elle a tenu son rang, elle était très à l'aise. Mais de toute façon, elle était à l'aise partout. Elle n'avait pas la grosse tête. Hein. Et ben moi, j'étais fière. Hein. Et après, elle est passée avec Jacques Chancel à Radioscopie. Et donc oui, son livre, il a connu un succès incroyable. Incroyable. À l'époque, c'était démesurée, quoi. Enfin, même elle ne se rendait pas compte.
Puis elle transmet son histoire aussi avec des conférences à travers la France et pas seulement. Elle a aussi été invitée aux États-Unis pour chaque commémoration, ensuite, aux côtés des grands chefs d'État. Et quand on parle de devoir de mémoire, finalement, aujourd'hui, c'est vous qui portez la mémoire de votre mère Geneviève.
Mais j'ai tellement cette histoire-là dans mes gènes. Et puis, maman me l'a tellement raconté, je l'ai tellement vécu par procuration, que presque à mon corps défendant, je me suis sentie obligée de continuer à faire un devoir de mémoire. Maman, elle a fait des conférences dans des dizaines et des dizaines de lycées pour dire aux jeunes, voilà ce que j'ai vécu. Essayez, vous qui êtes l'avenir du pays, de faire en sorte que ça ne se reproduise plus jamais, parce que la guerre, c'est vraiment une horreur. Et je l'ai mis dans la préface que j'ai écrite. Quand on pense qu'à moins de 3 heures d'avion, on a la guerre en Ukraine, on a aussi la guerre en Palestine, je pense qu'en témoignant, elle voulait dire aux générations futures, c'est vous qui allez prendre le pouvoir demain, c'est vous qui serez aux commandes du pays. Alors faites en sorte que ça ne revienne jamais. C'était une Européenne convaincue, parce qu'elle disait, si on envoie nos enfants à l'école en Allemagne, et que les petits Allemands ils viennent à l'école en France, comment veux-tu qu'ils se fassent la guerre après? Ils seront copains, ils ne se feront pas la guerre. Et oui, je pense qu'elle se battait pour ça. Alors bon, moi je ne l'ai pas vécu la guerre, mais j'ai un récit qui a été fait par une petite fille, même si elle l'a écrit alors qu'elle avait déjà plus de 40 ans. Mais en tout cas, c'était ses yeux d'enfant. Et je me dis, c'est un récit qui parle aussi aux enfants de cette génération-là, mais de celle d'après, et de celle d'après, et de celle d'après. Parce que cette histoire-là, dans un siècle, elle sera toujours, elle aura la même force de témoignage.
Et donc aujourd'hui, vous avez décidé de rééditer son ouvrage. Et c'est pour ça qu'on peut le retrouver
dans toutes les librairies
en Mayenne. Puisque depuis le début de notre échange, on parle effectivement de la Basse-Normandie, mais votre mère a habité Laval. Elle est décédée à Laval en 2017.
Elle a habité à Saulges. Son rêve, c'était de quitter la maison qu'on avait à côté du Havre et de trouver une maison très isolée parce qu'elle voulait finir sa vie en solitude pour pouvoir prier le bon Dieu. Et il y a un des petits moines qui lui a dégoûté une vieille ferme retapée à 1,5 km du premier voisin, dans ce qu'on appelle les fonds de Saulges. Vraiment, c'est vraiment en pleine campagne. Et elle a acheté cette maison. Et elle y a vécu jusqu'en 2007, date à laquelle la maladie d'Alzheimer l'a rendue incapable de rester là-bas parce que c'était trop compliqué. Et donc, elle est venue vivre chez moi. Parce que moi, entre-temps, j'étais venue vivre en Mayenne parce que du coup, j'avais trouvé ça tellement magnifique, la Mayenne. Je trouvais les gens gentils, je trouvais que c'était beau. J'étais à Paris à l'époque et quand je disais à mes amis, bah, je vais en Mayenne ce week-end, ils me disaient, c'est où la Mayenne? Bah, je disais, entre Rennes et Le Mans, quoi. Mais personne ne connaissait la Mayenne. Mais qu'est-ce que c'est bien, parce que pour vivre heureux, vivons cachés. Qu'est-ce que j'ai aimé et j'aime ce département, parce que j'y vis depuis 1984. Et j'aime ce département.
Stéphanie, ensemble, on a parlé de votre mère, Geneviève Dubosc, et de son ouvrage « Bye bye Geneviève », publié aux éditions Salvator. Je rappelle qu'il est disponible dans un grand nombre de librairies en Mayenne. Il ne faut pas hésiter à se le procurer. D'ailleurs, votre mère a par la suite écrit un autre ouvrage, « Et Dieu sauva mon fils », qui relate sa marche jusqu'à Jérusalem, qui sera également réédité en 2025. Merci beaucoup Stéphania pour ce très joli portrait que l'on a pu faire ensemble de votre mère Geneviève, grâce à vous. Merci beaucoup.
Bah, merci beaucoup à vous.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier, 101.7 à Laval. L'émission continue dans quelques instants avec votre agenda culturel. Avant, je vous propose que l'on écoute Félix Viot et Evelyne Brochu. Le titre, c'est pire et c'est mieux. Je crois que pour revenir au présent, en douceur, c'est pas trop mal. Écoutez.
Entre tes dents la foudre folle, amour. J'ai ce sentiment d'un danger sans recours. C'est comme une tempête, un parfum enivrant, une sombre comète qui passe lentement. Et pour
Voilà, on passe maintenant à l'agenda culturel de la semaine. On ne change pas quelque chose qui fonctionne bien. Et on commence à Laval avec le 6x4. Ce soir, vous pourrez découvrir sur scène Daoud et Simon Léosa. En quelques mots, Daoud mêle jazz et inspiration hip-hop, R&B et musique électronique. C'est un trompettiste franco-marocain qui s'inspire d'absurdisme et d'un sentiment d'inadéquation pour y puiser des compositions qui sont sûres d'énerver les puristes. Simon Léosa, lui, c'est un compositeur et multi-instrumentiste montréalais, débordante d'orchestration évocatrice et abstraite, accompagné d'éléments électroniques électrisants. Les pièces de Léosa créent un paysage vibrant, à la fois chaleureux et exaltant. C'est une soirée qui fait envie ce soir au 6x4 avec le Chaînon Manquant. On continue maintenant au Théâtre de Laval et c'est Maxime Thomas qui va nous dire quelques mots sur ce qui nous attend ce week-end. Écoutez.
Donc le dimanche 22 septembre, nous proposerons ces nouvelles propositions. On ouvre le théâtre. En gros, le théâtre, on se rend compte qu'on fait une présentation, un peu la grande messe en juin. Et on s'est dit, l'idée, c'était d'ouvrir les portes et de profiter des Journées européennes du patrimoine. Les Journées européennes du patrimoine, en fait, on y participe depuis pas mal de temps, mais on n'en faisait pas beaucoup, beaucoup de communication. Et on s'est dit, c'est peut-être le moment d'ouvrir le lieu pour les gens qui veulent en savoir plus sur le théâtre, qui veulent un peu des conseils sur la programmation. On sait que ce n'est pas toujours évident de regarder dans un programme et de se dire, voilà, c'est lequel spectacle. Donc là, c'est le moment de venir pour avoir un temps privilégié avec Pierre Jamais, notamment le programmateur. Il y a un moment où on peut vous accompagner dans le choix des spectacles. Et donc, on aura plusieurs visites d'organiser. On aura 4 visites à 14h, 15h, 16h et 17h. Donc, c'est sur réservation, sur le site du théâtre. Les collègues du service médiation ont organisé des petites choses. Si on n'a pas le temps de faire la visite complète ou s'il n'y a plus de place, vous pouvez venir juste pour découvrir la grande salle. On organisera un petit jeu. On sera en partenariat avec l'association La Croisée qui proposera un goûter. Et on aura l'exposition Grain qui sera présentée pendant ce week-end.
Laval, c'est agréable, mais laissez-moi vous emmener faire un tour dans le sud Mayenne, pourquoi pas à Château-Gontier, au Carré. Je vous conseille de vous y aventurer cette année, vous ne serez pas déçus. Écoutez Maël Grenier, directeur du Théâtre des Ursulines, il nous parle de cette ouverture de saison.
Alors, on va démarrer la saison avec une soirée d'ouverture qui aura lieu samedi 21 septembre. Et je crois que la météo est bonne. Je le dis parce qu'on la regarde tous les jours, il paraît qu'on va quand même gagner pas mal de degrés, donc on croise les doigts, mais a priori il va faire beau et relativement doux. Et on invite le public à nous retrouver sur les bords de la Mayenne, sur les berges de Azé, pas très très loin de la mairie, au niveau des étangs, pour accueillir L'île sans nom, un spectacle porté par Guillaume Lambert, un artiste qui propose un voyage dans un spectacle qu'il appelle lui-même une forme de théâtre-paysage, où le paysage prend une place comme un des acteurs, un des protagonistes de l'histoire. Il s'agit d'un voyage sur une île au large de l'océan Indien, qui est une île perdue, dans laquelle il a eu l'occasion de faire un voyage en tant qu'accompagnateur d'une équipe scientifique. Donc il a passé 5 mois sur cette île. Et il y a découvert, notamment les changements climatiques au niveau planétaire, peuvent induire de transformations dans ce tout petit bout de monde, totalement oublié, totalement inconnu. Et il fait un parallèle entre, on va dire, son histoire intime, une histoire personnelle qu'il nous raconte au long du spectacle, et l'histoire de ce lieu et tout ce qu'elle peut avoir d'universel. C'est vraiment un très très beau moment que j'ai trouvé particulièrement joyeux, ouvert. C'est une découverte, en tout cas j'invite les gens à plonger dans la saison avec nous à partir de cette date là. On sera donc en plein air, c'est un spectacle en 2 ou presque 3 parties et entrecoupé d'un moment de pique-nique. Donc on propose un pique-nique partagé, venir avec son pique-nique et puis faire en sorte peut-être de partager un peu un moment avec son voisin, puisqu'il y aura une demi-heure de repas intégré au spectacle. Voilà, donc c'est une ouverture de saison joyeuse, en plein air et surtout à l'aventure à l'autre bout du monde.
Voilà, l'AJT du local s'arrête ici pour cette semaine. Merci à Stéphania d'avoir partagé avec nous l'histoire de sa mère Geneviève Dubosc. Ce soir, pour commencer le week-end, on sera avec Dance Hall Social Club. C'est à 19h pour quelques sucreries du passé. Et puis un coup d'œil quand même sur le week-end avant de vous quitter. Eh bien, ce sera Rock Dreams qui revient samedi à 13h, suivi de Rock à la Casbah. Dimanche, ne manquez pas Sport Épique qui prend l'antenne dès 11h pour parler sport, bien sûr. Et ce week-end se terminera bien avec une nouvelle émission qui rejoint notre programmation. Vous écouterez Jazz Attitude à partir de 21h, une émission animée par Cyrali. Voilà, je vous souhaite un bon week-end. Profitez-en, ralentissez le temps. Tentez le coup, ça vaut la peine parfois et même souvent. En tout cas, prenez soin de vous, de ce temps et de ceux qui vous entourent. Voilà, vous l'avez compris, vous avez 2 jours devant vous pour faire le bien.
C'est déjà la fin, qu'est-ce qu'on va faire maintenant?
Mimi, il y a d'autres émissions qui sont bien aussi sur l'autre radio.